Un air d'actu avec Serge Carrel.
Pour Noël prochain, l'Alliance biblique française envisage de publier une Bible de la rue, une Bible utile aux personnes sans domicile fixe. Pour parler de ce projet original, Gilles Boucomment, pasteur réformé dans le 20e arrondissement de Paris et président de la mission évangélique pour les sans-logis. Madame, monsieur, bienvenue. Gilles Boucomment, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'un des initiateurs de cette Bible de la rue. Comment vous est venue cette idée ?
Eh bien, nous manquions de Bible adéquate pour le public des sans-logis. Et nous avons toujours un petit Nouveau Testament ou alors une Bible, surtout à bas coût, ou alors les paroissiens standards disaient « Oh, j'ai une vieille Bible, elle pourrait servir pour les sans-abri ». On avait un peu le sentiment de donner quelque chose de pas tout à fait adéquat et qui manquait d'outillage aussi pour découvrir la Bible. Et donc, on s'est dit, si ça n'existe pas, c'est qu'il faut le faire.
Donc, la Bible standard qu'on connaît bien en France, elle est à 2 euros, je crois qu'elle est à 3,50 francs en Suisse. Ça, c'est quelque chose qui ne convient pas.
Disons que la Bible pas très chère, là, elle a un petit problème dès qu'elle est dans un sac qui connaît la pluie, c'est qu'elle double de volume, donc c'est une difficulté, elle devient assez rapidement difficile à lire, et puis en plus, elle est écrite en tout petit caractère, ce qui est compliqué pour des gens qui sont rarement équipés de lunettes adéquates.
Alors, comment est-ce qu'elle se présentera, cette Bible de la rue, en quelques mots ?
Cette Bible de la rue, elle va avoir la particularité d'avoir donc un papier pas complètement waterproof, mais en tout cas sensible, pas trop sensible à l'humidité. Ce sera le texte du français fondamental, puisque beaucoup de gens à la rue n'ont pas nécessairement le français pour première langue. Donc, c'est un texte qui a 3000 mots de vocabulaire, ce qui fait beaucoup moins que les autres Bibles. Et puis, elle aura une couverture, elle, parfaitement étanche.
Oui, ce qui est original, c'est qu'il y aura la possibilité de la fermer avec une fermeture éclair, comme on dit en Suisse, hein, vous appelez ça zip. Et puis, à l'intérieur, il y aura même la possibilité d'y glisser quelques documents importants.
Ça faisait partie de l'intuition, c'est de dire que souvent, nos amis de la rue ont une espèce de petit sac plastique dégoûtant dans lequel il y a 5-6 photocopies qui sont des traces de papiers administratifs qu'ils ont pu avoir, mais se sont fait déjà voler une première fois. Et donc, l'idée, c'était de dire que cette Bible, elle va avoir exactement le format d'une feuille à 4 pliée en deux, donc un format A5, pour constituer aussi une sorte de portefeuille au sens étymologique. Et ils pourront conserver là un peu tous leurs trésors, une ou deux photos, des choses comme ça. Ça sera le lieu précieux.
Alors, on connaît hein, toutes sortes de Bibles déclinées à destination d'une population particulière. Il y a la Bible des bikers, la Bible des footballeurs, la Bible de la montagne. Là, est-ce qu'il y aura aussi une déclinaison un peu spécifique avec des éléments qui s'adresseront plus directement à des gens de la rue ?
Alors, il y aura plusieurs éléments qui s'adressent aux gens de la rue. De façon très, très pratique et opérationnelle, il y aura pas mal de QR codes, ces petits signaux noirs et blancs qui permettent, avec un smartphone, de trouver une information bien précise, parce qu'il y a quand même, en tout cas à Paris, plus de 60% des personnes à la rue qui ont un smartphone. Et en termes de contenu spécifique à la Bible, donc la police de caractère sera plus grosse que dans une Bible standard, mais il y aura des psaumes spécifiques pour les temps de chaque jour. Il y aura des parcours bibliques. Il y a notamment un parcours qui s'appelle Jésus SDF, où on reprend des textes comme « Il n'avait pas une pierre où reposer sa tête »,« Partez, mais ne prenez ni bagages, ni sandales. »
Alors, voilà. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, hein, vous êtes à la fois pasteur réformé, mais dans le même temps, vous êtes président de la mission évangélique parmi les sans-logis. Est-ce que finalement, cette Bible de la rue va connaître une déclinaison en dehors de Paris et elle va être accessible finalement à l'ensemble de la francophonie ?
Alors, cette Bible, elle sera pas au catalogue de l'Alliance biblique parce que elle sera spécifiquement distribuée par les associations qui s'occupent de SDF. Donc, les associations pourront l'acheter par carton, mais elle sera aussi disponible en Suisse, notamment parce que une pasteur suisse a participé à l'élaboration de cette Bible. Donc,
oui, c'est Eti Overem hein, qui est bien connu ici et dont l'association s'appelle L'Évangile en chemin et qui a eu pendant de longues années une présence à Lausanne au cœur de la ville.
Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un outil transversal qui pourra être vraiment accessible à tout un chacun.
Est-ce que finalement cette Bible aura un coût un petit peu plus élevé au vu des prestations que vous allez offrir qu'une Bible ordinaire ?
Le coût de production de cette Bible est cher hein, parce que c'est une Bible qui va coûter 20 euros. Ce qui fait pas mal, mais elle sera mise à disposition des associations caritatives au prix de 3 ou 4 euros l'unité, parce que il y a tout un partenariat de générosité qui est mis en place afin qu'elle soit véritablement accessible.
Et ce partenariat de générosité, comme vous dites, il est aussi accessible depuis la Suisse ?
Oui, vous avez des adresses via l'Alliance biblique française ou via le site de la mission évangélique parmi les 100 logis. On peut contribuer et permettre la réduction du coût, d'autant plus que le papier a terriblement augmenté depuis la crise du Covid. Ce sont des bibles qui sont imprimées loin et le transport a aussi beaucoup augmenté. Donc, le coût du projet a...
Des coûts supplémentaires qui n'étaient pas nécessairement budgétés à l'origine.
Voilà.
Gilles Boucomon, on l'a dit, hein, à côté de votre pastorat dans la paroisse réformée de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, vous présidez cette mission évangélique parmi les 100 logis. On vous connaît, vous êtes un peu une figure du protestantisme français, vous avez plaidé pour la dynamique des attestants, de ces professants au sein de l'Église réformée. Qu'est-ce qui fait qu'à côté de votre pastorat, vous vous engagiez comme cela dans une mission auprès des sans-domicile fixe ?
Pour ma part, j'ai commencé mon ministère en Afrique de l'Est, au milieu des camps de réfugiés, et donc j'ai toujours été très sensible à un évangile assez centré sur l'évangile de Luc, c'est-à-dire un évangile pour les pauvres. Je crois que le Seigneur cherche tout le monde, mais qu'il a quand même un petit favoritisme pour les plus pauvres, notamment parce que, comme eux, il a été sans logis et avec une dépendance à l'autre, et notamment à Dieu, mais aussi à la générosité des autres, au jour le jour. Donc, dans ce quartier très populaire de Belleville, nous sommes juste à côté de ce qui s'appelle la colline du crack, hein, qui est le lieu de la destruction de l'humain par excellence, où on peut trouver du crack à 3 euros. Eh bien, c'est important d'avoir un témoignage chrétien parmi des gens qui peuvent être des migrants ou des Français depuis plusieurs générations, mais qui ont été complètement fracassés par l'existence. Et c'est là que l'évangile résonne d'une façon encore plus forte.
Alors, de manière concrète, décrivez-nous un peu en quoi consiste cette mission évangélique parmi les 100 logis.
Alors, c'est vraiment l'œuvre la plus œcuménique intra-protestante en France, puisque nous y faisons travailler des luthériens avec des néo-pentecôtistes, des darbistes avec des réformés, des baptistes avec les assemblées de Dieu. Donc, en fait, toutes les églises qui le veulent peuvent participer en envoyant des bénévoles ou des équipes de bénévoles pour bien pour nourrir d'abord, hein, parce que notre slogan, c'est « la parole et le pain ».
Donc, 90... comment ça se passe ? Vous servez des sandwichs, vous donnez un peu de pain et de fromage aux personnes qui s'approchent de votre association ?
Depuis le Covid, notre activité a doublé de volume, malheureusement, parce qu'on a beaucoup plus de demandes. Donc, nous servons des repas chauds maintenant à l'extérieur, parce que notre salle de restauration est trop petite par rapport au nombre de personnes qui demandent. Pour vous donner un petit ordre d'idée, l'année passée, nous avons servi 90 000 repas, ce qui fait beaucoup sur une année.
Donc, jour ouvrable, ça fait combien de repas ?
Ça fait 250 par jour, en gros, un peu plus.
250, c'est énorme, ça demande une infrastructure, c'est presque une sorte de cantine de grande entreprise.
Oui, tout à fait. Oui, on a, quand on fait des pâtes, nous avons une espèce de chaudron qui fait 120 parts de pâtes à la fois. Donc,
Et comment est-ce que voilà, ces repas sont quelque part alimentés? Comment est-ce que vous recevez un financement de l'État français ou vous fonctionnez différemment?
alors, nous ne cherchons aucune subvention publique parce qu'en France, la séparation de l'Église et de l'État fait que si nous appelions des financements publics, nous n'aurions pas le droit d'annoncer l'évangile. Donc, nous avons fait un choix que je considère courageux, puisque c'est moi, pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. Nous avons fait un choix qui est de ne pas rechercher les subventions publiques et de ne dépendre que de la générosité des chrétiens. Donc, tout ça est financé en interne, y compris les salaires de nos trois permanents et tout ce qui est rendu nécessaire par la présence d'un médecin, de coiffeur, des douches, des vestiaires, et tout le reste, parce que j'ai parlé beaucoup du pain là, mais aussi la parole, des cultes, des études bibliques, des préparations au baptême, etc., etc. Donc on est soutenu par beaucoup de gens, et notamment quelques Suisses d'ailleurs, que je remercie au passage.
Alors, qu'est-ce que cette Bible de la rue va apporter concrètement aux gens que vous croisez dans le cadre de cette mission évangélique parmi les sans-logis?
Alors, premièrement, évidemment, un texte biblique accessible en soi, mais je crois surtout que la qualité de cette Bible va être une façon aussi de dire aux personnes qu'on les considère. Quand nous avons monté le projet, le secrétaire général de l'Alliance biblique française était là dans la première réunion et il a dit mais est-ce que la tranche de la Bible
Doit être doré ou bien.
doit être dorée? Et j'ai dit, oh non, ça ne me paraît pas nécessaire. Et lui a dit, ben moi, je considère que c'est indispensable pour envoyer un message comme quoi nous allons honorer ces personnes. Et hors du budget, l'Alliance biblique offrira la tranche dorée.
Voilà, c'est un peu surprenant.
Et c'est un peu surprenant, mais je crois vraiment que ça touche les personnes, qu'on leur fasse au lieu de leur donner une vieille Bible qui a déjà été utilisée pendant 5 ans, on leur donne une Bible neuve, extrêmement belle, qui est symboliquement faite pour eux, avec des outils extrêmement adaptés à l'intérieur, parce que beaucoup des outils qui seront dans cette Bible ont été vraiment créés sur mesure. C'est une façon de vraiment de les honorer et ils sentent que c'est un cadeau précieux, en fait.
Mais parmi cette population, hein, que vous côtoyez, puisque vous passez, vous me l'avez dit hors antenne, 15% de votre temps de travail comme président de cette mission, est-ce que parmi les sans-domicile fixe que vous croisez, il y a de l'intérêt pour la Bible?
Alors, il y en a qui ne s'y intéressent pas du tout, mais en même temps, tous ceux qui viennent nous voir, nous, savent que nous sommes chrétiens. Il y en a qui sont, voilà, certains sont chrétiens dans la rue, certains deviennent chrétiens. On a beaucoup de gens qui ne se diraient pas chrétiens, mais qui participent à nos études bibliques.
Donc vous avez régulièrement, c'est quoi, une fois par semaine, vous avez une étude biblique, finalement vous constituez une sorte de petite église, de petite paroisse pour les sans domicile fixe parisiens?
Ah oui, il y a plusieurs considèrent que c'est leur paroisse en fait. On a bien conscience que les paroisses n'ont pas une vraie capacité à accueillir. Faut pas être voilà, faut pas être complètement irénique. Les paroisses ont du mal à accueillir un SDF qui sent mauvais, qui arrive avec quasiment 1 mètre cube de bagages.
Le dimanche matin au culte, c'est...
Oui, c'est compliqué. Alors, dans ma paroisse, on y est un peu sensibilisé, donc peut-être que c'est un tout petit peu plus facile, mais il n'y a pas une foule d'églises qui sont disponibles à ça. Donc, il est bon qu'il y ait là un sas où les personnes puissent vivre une vie d'église de façon fluide, avant peut-être, une fois qu'ils seront un tout petit peu reconstruits, de pouvoir concrètement rejoindre les autres églises.
Du point de vue pratique, quel type d'aumônerie est-ce que vous pratiquez à l'endroit de ces sans-domicile fixe? Parce que finalement, c'est un monde quand même assez original qui est marqué par passablement de violence, par aussi une difficulté assez extraordinaire de fixer des rendez-vous concrets, ponctuels.
Oui, ce que nous disent les SDF, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que, contrairement aux autres lieux de distribution dans Paris, il n'y a pas de violence chez nous. Parce qu'il y a des règles qui sont fortes, qui sont bien posées. Il y a aussi la prière qui précède toute action.
Donc, lorsque vous servez des repas avant, on prie.
Voilà, c'est ça. Donc,
ça passe bien dans une mentalité française. C'est vrai qu'on pourrait se dire que ça surprend et que parfois, on aimerait que vous soyez peut-être davantage laïque.
Alors oui, si on avait de l'argent public, pourquoi pas, mais en réalité, on est tout à fait libre de le faire. Et les gens aiment ça. Je suis sensible au fait que beaucoup de musulmans viennent manger chez nous et on leur dit « mais pourquoi vous venez chez nous si vous savez que c'est un lieu qui est vraiment très explicitement chrétien ?» Et ils nous disent « on vient chez vous parce qu'au moins c'est clair. On sait à qui on a affaire, il y a une lisibilité qui est beaucoup plus intéressante que si on va au Resto du Cœur, on ne sait jamais si on va tomber sur un black bloc de gauche qui fait sa petite œuvre sociale ou une vieille dame Front National qui ne nous aime pas parce qu'on est noir ou un catho qui va essayer de nous refourguer un chapelet. On ne sait jamais à qui on aura affaire dans les autres associations. Chez vous, on sait que c'est clair, on sait que c'est Jésus et amen, en fait. Et beaucoup disent amen à la fin de la prière.
Et que peut représenter pour ces gens de la rue qui ont tout perdu, qui sont en rupture de banc, on pourrait dire, que peut représenter pour eux l'évangile de Jésus-Christ ?
En fait, quand ils lisent les Écritures, pour avoir fait récemment une préparation au baptême, quand on lit la Bible avec eux, il y a une espèce d'immédiateté. Ce sont des situations de vie. Et eux réagissent immédiatement. Ah ben moi, si j'étais dans ce cas-là, voilà ce que je ferais. Et il y a beaucoup de situations où cette espèce de disruption que Jésus vient amener dans la logique religieuse, où finalement il donne par sa grâce une faveur à quelqu'un qui était mis un peu au dehors, c'est quelque chose, une victoire sur l'exclusion.
C'est quelque vraiment chose qui les rencontre.
Oui.
Et vous aimez mentionner l'histoire assez exceptionnelle hein, du directeur actuel de la mission évangélique parmi les sans-logis. Il s'appelle Eric et il est issu de la rue lui-même.
Oui, alors c'est un excellent directeur parce qu'il sait comment les autres se comportent et les autres savent aussi son histoire. Eric a été, Eric a eu des problèmes avec la drogue, il a eu des problèmes en prison. Et il a été aussi à la rue. Et donc, c'est quelqu'un qui sait tout à fait fonctionner avec les personnes les plus difficiles. Et ça parle beaucoup aux gens qu'on ait choisi justement quelqu'un qui a été à la rue comme directeur. On ne lui donne pas simplement un petit boulot de balayage ou que sais-je. Mais c'est quelqu'un, bien sûr, il en a les capacités, mais c'est touchant pour les personnes de la rue d'avoir aussi un des leurs qui est en soi porteur d'un message, qui est de dire qu'il y a un avenir qui est possible, une réinsertion, il a une famille, il a un boulot stable et il est désormais en bénédiction pour ces gens. Et il a rencontré le Seigneur dans la rue, en fait.
Et vous savez comment il raconte, il témoigne un peu de la manière dont il a rencontré le Christ dans la rue ?
Justement, on lui a donné une Bible et comme les soirées étaient très longues, il lisait la Bible puisque c'était le truc qu'il avait. Et au fur et à mesure, il a été travaillé par le texte. Hein. C'est pas lui qui a travaillé le texte, mais c'est le texte qu'il a travaillé. Et de fil en aiguille, par des événements d'incarnation concrète de la grâce de Jésus, il est devenu chrétien. Je pense notamment à cet événement qui fait que un directeur d'un gros fast-food parisien a donné à l'administration pénitentiaire l'assurance que s'il sortait de prison, il aurait un travail chez lui. Et donc, sa sortie de prison a été hâtée et il a eu un travail immédiatement. Et il a vraiment reçu ça comme étant un don de Dieu, en fait.
Gilles Boucomont, on écoute maintenant Abel avec Tel que je suis et on se retrouve peu après cette chanson pour poursuivre notre entretien.
Sans rien à moi. je suis bien vacillant.
Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous accueillons aujourd'hui Gilles Boucomont, pasteur réformé et président de la mission évangélique parmi les 100 logis. Alors Gilles Boucomont, on vous connaît un peu en Suisse romande, vous êtes une personnalité du monde réformé français. Est-ce que finalement, au travers de toute cette dynamique auprès des 100 logis, il n'y a pas dans votre parcours une sorte de contradiction avec ce pasteur qu'on connaît en Suisse romande comme une sorte de construction de communautés vivantes au sein du protestantisme réformé?
Moi, je crois en un évangile de la transformation. Donc, c'est pour ça que je contribue à tout ce ministère d'accompagnement spirituel qui s'appelle Libéré. Et mon expérience, c'est que l'évangile n'est pas une douce berceuse pour dormir tranquille le soir avec une conscience apaisée. L'évangile, c'est un désir de Dieu de transformer le monde de façon très concrète. Et donc, personnellement, dans une société aussi riche que la société française et en particulier parisienne, ça me paraît tout à fait insupportable de voir des gens qui sont dans la rue alors qu'il y a tout à fait les moyens de les loger, de voir des gens qui ont faim alors qu'il y a tout à fait les moyens de les nourrir, de voir des gens qui sont en train de se passer la Sainte Seine les uns aux autres et l'un a beaucoup trop d'argent et il passe le petit bout de pain à celui qui n'aura pas de repas après le culte. Personnellement, je supporte pas ça. Voilà, c'est un peu viscéral et sûrement trop émotionnel, mais ça me conduit à nécessairement réfléchir à une implication de l'Église pour transformer pas simplement des individus, mais aussi la société dans son ensemble.
Mais vous avez été, avant ce pastorat dans le 20e arrondissement à Belleville, vous avez été pasteur d'une autre paroisse, celle du Marais, où finalement vous étiez, en tout cas vu de l'extérieur, vu depuis la Suisse, nettement moins impliqué sur les questions sociales. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose en arrivant à Belleville où vous vous êtes dit « mais là, ça ne va plus, il faut que voilà, je modifie une ou deux choses dans mon équilibre personnel d'engagement pastoral ?»
Alors, la paroisse du Marais, pendant la période estivale, quand toutes les associations ferment leur aide, nourrit de 30 à parfois 60 SDF chaque jour.
Donc, vous aviez déjà cet engagement dans le cadre de cette paroisse du Marais.
Voilà. Donc, oui, ça a toujours été une question de cohérence pour moi. C'est-à-dire que si le pastorat est simplement une activité sportive du cerveau, eh bien, je trouve qu'il manque une dimension. Il manque une dimension concrète de l'évangile. Jésus prêchait, mais il multipliait les pains aussi.
Est-ce que vous ressentez parfois, alors vous l'avez dit un petit peu, mais cette incongruité d'annoncer un évangile, de prêcher le dimanche matin, et puis quelque part en même temps, lorsque vous quittez votre temple, de croiser des gens qui tendent la main, qui sont là en difficulté sociale? C'est vrai que ça renvoie une image de la société française, mais suisse aussi parfois, qui est finalement assez insoutenable.
Oui, ben quand je sais que quand je prêche, je suis le premier destinataire de cette prédication, et donc quand j'exhorte les uns et les autres à plus de justice avec l'ensemble des prophètes du Premier Testament, eh bien, je trouve qu'il faut être cohérent. Moi, j'ai eu une formation en finance avant d'être pasteur, et ce qui m'a fait quitter les finances, c'était un profond dégoût pour ce qui était en train de se tramer à l'époque. Et qui est devenu aujourd'hui le système boursier avec des schémas spéculatifs tout à fait scandaleux, des produits boursiers qui ne correspondent à plus aucune valeur industrielle réelle dans le monde matériel, jusqu'à maintenant des monnaies basées presque sur rien. Donc, tout ça m'a beaucoup choqué. Je trouvais qu'il y avait une profonde injustice derrière ça et que c'était un facteur de paupérisation, d'écart monstrueux entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, j'ai toujours été sensible à cette dimension économique de l'Évangile et je suis frappé de voir que l'effet le plus marquant de la Pentecôte, c'est pas les flammes de feu sur la tête, c'est pas le parler en langue, mais ces gens-là partagent tout. Et c'est redit 4 ou 5 fois jusqu'à acte 5. Ces gens-là partagent tout, c'est incroyable, ces gens-là partagent tout. Et ça revient comme un refrain. Donc le signal le plus fort de la Pentecôte, c'est le changement économique, il faut le dire. C'est le bouleversement du système de partage.
Et ça, vous essayez de l'incarner dans le cadre de votre paroisse réformée de Belleville. Les paroissiens, ils sont sensibles et ils vous emboîtent le pas et quelque part sont conquis par votre dynamique.
Alors, les paroissiens ont toujours été sensibles à ça. C'est une paroisse qui a été fondée suite à la Commune de Paris pour prendre soin des veuves et des orphelins. C'est une paroisse qui est très populaire avec 44 nationalités, 44 langues, pardon, ce qui est un tout petit peu différent. Et donc, les gens sont très sensibles à ça. On fait au repas de Noël, il y a 40% de paroissiens et 60% de SDF. Donc, ils sont tout à fait dans cette implication-là. Beaucoup sont bénévoles à la mission, d'ailleurs.
Et ça, sans trop d'anicroche, il n'y a parfois pas des gens qui manifestent leur agacement en disant manifestement le public qui constitue cette paroisse ne correspond plus à ce que l'on souhaiterait, on va aller voir ailleurs.
Alors, il n'y a pas énormément de SDF qui viennent au culte, hein, mais il y en a, et certains notamment se réinsèrent. J'ai la joie d'avoir une personne qui s'occupe maintenant de la technique à l'église, qui était quelqu'un qui est venu vraiment de la mission. Et puis, la chance qu'on a à Paris, c'est que si on n'est pas content de la paroisse, on va à la paroisse d'à côté. Elle n'est pas très loin.
Gilles Boucomont, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Un air d'actu aujourd'hui pour nous parler de ce projet de Bible de la rue. Si des personnes étaient intéressées par davantage de renseignements autour de cette Bible, vous avez un site internet ?
Oui, alors les personnes peuvent aller voir les sites de l'Alliance biblique française.
On tape sur Google Alliance biblique française et je crois que c'est le premier article actuellement qui est mis en avant. Je vous souhaite une excellente suite de journée, un bon temps de repos. Vous allez quitter Paris quelques jours pour vous reposer.
Merci, oui.
Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site www.radio-r.ch. Un article et un podcast vous permettront de retrouver cette émission. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de nouvelles en visitant notre site web et suivre ainsi ce que toute l'équipe de Radio R vous propose, à la fois par écrit ou en podcast. Gilles Boucomont, merci. Salutations du côté de Paris où il fait très chaud.
Oui, merci.
Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Au revoir et à bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.